Ici, dans le rétro, l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partir en balade avec vous et notre invité. Dans le rétro, c'est un voyage spatio-temporel. C'est l'histoire d'une vie, une vie qui parfois peut résonner dans la nôtre. Aujourd'hui, nous sommes avec un humoriste, acteur, réalisateur et conteur qui enchante le cœur. Pour lui, l'humour drôle, naïf, c'est quand on se fait passer pour un con et que ça fait rire tellement on est con. Généralement, ça marche que quand on est vraiment con. Ça va? Vous suivez? Bon, mon invité aujourd'hui, c'est Michel Boujna. Passé, présent, futur, c'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Michel Boujna.
Bonjour.
J'ai rien compris à cette phrase.
Bah oui, c'est un peu con.
C'est un peu con. Michel Boujna, le festival de Ramatuelle, c'est cet été du 1er au 12 août. Vous en êtes le directeur artistique. De quoi vous vous occupez exactement en fait?
Eh ben, je veux voir les spectacles, ce qui est un plaisir fou. Quand je tombe sur un spectacle qui me bouleverse ou me fait rire ou me fait pleurer, enfin me bouleverse en me faisant rire, la plupart du temps c'est ce que je cherche tout le temps, parce que c'est mon goût naturel. Mais je programme pas que ce que j'aime, je programme ce qui est beau aussi, même en me disant, bon c'est pas mon style, mais qu'importe. Ensuite, j'en parle avec Jacqueline Franjou qui est la présidente du festival, c'est très collégial tout ça, c'est très familial presque. Je suis là quand les artistes arrivent pour les répétitions. Je suis là évidemment pendant le spectacle, je bouge pas de ma chaise à moins d'un problème. Je fais tout pour que les artistes soient bien. J'en suis un, je sais à quel point on peut se froisser facilement.
Ah ouais?
Oui, mais bien sûr. Un détail, une connerie.
Un truc qui va pas dans la loge, un truc... Ça peut jouer. Crisper.
Ouais, alors il y a des gens qui s'en foutent, mais puis ça peut être, je sais pas moi, un technicien par exemple qui est énervé pour une autre raison. Et puis qui commence à gueuler dans les coulisses pendant la répétition. Et ça peut.
Un artiste peut dire. Et ça peut être l'inverse aussi.
Hein? Absolument. Et il faut surveiller aussi l'entourage des artistes.
Michel Boujna, ce festival, il a été créé par Jacqueline Franjou, qui était vice-présidente de l'Office du tourisme de Ramatuelle, et par le comédien Jean-Claude Brialy. Le but, c'était de valoriser le village et de rendre hommage à un grand acteur.
La mort a frappé haut. Elle a fauché celui qui, pour des millions d'adolescents, exprimait la vie. On enterre Gérard Philippe dans le costume du Cid.
C'est très beau. Je me souviens très bien de ce moment-là. Moi, j'étais tout petit en Tunisie parce que ma mère pleurait.
C'est un hommage donc à Gérard Philippe. Le théâtre de verdure de Ramatuelle où se déroule le festival est situé justement près de la tombe de Gérard Philippe. Est-ce que vous pensez que son esprit se balade pendant le festival?
Ah ouais.
Quoi?
Vous fumez maintenant? Vous prenez de la drogue, c'est ça. Hein,
vous savez pourquoi je dis ça? Non, mais vous savez pourquoi je dis ça?
Ouais, pourquoi?
C'est vous qui fumez, en fait.
Pourquoi?
Parce que c'est ce que vous avez dit.
C'est vrai, j'ai dit
bah,
ça?
Oui.
Eh bien, c'est inquiétant. C'est marrant parce que je ne suis pas du tout branché sur ces trucs-là, fondamentalement. Et pourtant, il y a une chose qui est sûre. C'est qu'à Ramatuelle, il se passe quelque chose. Je ne sais pas quoi. C'est quelque chose qu'on ressent quand on arrive dans un lieu, que ce soit une maison, un théâtre, n'importe où. D'abord, on se sent bien et on sent qu'il se passe un truc.
Bah alors?
Oui, mais.
Eh bah.
C'est peut-être tout simplement que c'est bien, mais je sais qu'il y a des phénomènes qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas. Il y a très longtemps, on pensait que le ciel nous tombait sur la tête quand il pleuvait, d'accord? On a découvert comment la pluie se fabriquait. Maintenant, on ne le dit plus. Eh bien, peut-être que cette sensation que j'ai, un jour, elle aura une explication
peut-être.
Rationnelle. Vous savez, je connais une route, moi, et bien elle descend, pas beaucoup, ouais. Beaucoup, mais elle descend quand même, c'est vrai, une vraie pente. Hein. Et bien, quand vous êtes en voiture, vous enlevez le frein à main, vous coupez le moteur, dans le sens de la descente, hein, et ben la voiture, elle remonte.
Vous avez fumé quoi?
Ah non, rien du tout. Je vous jure.
Je sais, mais j'ai déjà entendu cette info.
C'est fou. Et ben, il y a des trucs qu'on ne peut pas comprendre.
Michel Boujna, il y a plein d'artistes qui seront là cette année. Le 1er août, pour la soirée d'ouverture, il y a un invité surprise. On va tout de suite enlever la surprise. Cette personne, vous la connaissez, c'est... Ah, vous dites rien, vous m'arrêtez pas.
Ah, mais vous êtes folle.
Vous m'arrêtez c'est, même pas, j'aurais faites... pu le balancer comme ça.
J'ai compris, vous ne faites pas que fumer. Non, je ne peux pas le dire, c'est une surprise.
Bah, je me doute, je vous charrie, mais par contre, là, en fait, j'hésite parce que j'avais préparé un petit jeu.
Allez, allez-y.
Et là, vous allez me prendre pour une tarée, en fait.
Non, c'est déjà fait. C'est le stade supérieur, c'est l'internement. Après.
Je le fais, mon jeu, ou pas?
Allez-y, avec plaisir.
Donc, en fait, il va falloir deviner les noms de ceux qui seront au festival. Vous qui nous écoutez, vous pouvez essayer de jouer aussi. Hein. Je vais vous donner des indices. La première syllabe d'un invité. Il est le... Monseigneur.
Il est l'or, monseigneur.
Il est l'or, monseigneur. Qu'est-ce qui fait 365 jours?
Une année, non?
An.
Un an.
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 Ouais. L'or, an, Ok. On l'utilise par politesse quand on ne veut pas dire tu.
Vous.
On double pour former un zizi.
On double pour former un zizi?
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire, on double?
Mais en fait, je me suis embarquée dans un truc.
On double pour former un zizi.
Laurent, voule, zi. On oui. double le zi pour faire un zizi.
D'accord.
Ouais, d'accord.
Alors, okay. Et c'est pas qu'elle okay. a fumé. C'est autre chose, ça doit être un truc autre chose.
Laurent Voulzy sera quand même dans les invités.
Il sera, mais bien sûr qu'il
J'en
sera.
J'en ai une autre, vite
il
fait,
est
ok
Il est même sociétaire du festival, il vient souvent.
Il vient souvent. J'en ai une autre, vite fait.
Allez-y.
Mon premier signifie là, à ce moment-là ou à ce point-là en allemand. On va laisser tomber. Da.
Okay. Da. Ah oui, da.
Mon second est le refuge des oiseaux.
Un nid.
Mon troisième est synonyme de gadou.
Bou.
Mon quatrième se noue.
Un nœud.
Donc ça fait quoi?
Danny Boone.
Ouais, bon, c'était pas mal.
Il fait la clôture.
C'est voilà, exactement. Bon, il y aura qui d'autre? Rapidement, parce que du coup, on a perdu un temps fou avec mes vannes à deux balles. Il y a qui?
Il y a le Saint des Poètes disparus, il y a les gros patines bien, il y a Philippe Lelouch, il y a l'ancien ministre de la Justice.
Éric Dupond-Moretti.
Voilà. Il y a les Liaisons dangereuses, qui est l'actrice principale a eu un Molière cette année. C'est un spectacle magnifique. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais je connais l'histoire ». Non, non. Il faut voir ce spectacle, c'est un bonheur.
Tout le programme en fait, du festival, c'est sur Internet. Ça se passe du 1er au 12 août et sur le site festival-ramatuel.com. Ouais.
Et avant, si je peux me permettre,
non.
avant, il y a 3 jours de classique.
Voilà. Exactement.
Ouais. Dont une soirée que j'attends avec impatience, qui est Yvan Cassard avec Louis Chédid.
Ici, dans le rétro.
Allez, on enclenche la téléportation, c'est parti pour notre voyage dans le temps. Vous naissez en Tunisie, à Tunis, vous êtes le 3e garçon, il y en aura un 4e plus tard. Votre père Joseph est médecin, Janine, votre maman est mère au foyer, ça fait quand même du taf, 4 garçons. Qu'est-ce que vous lui devez à votre maman et est-ce qu'un enfant est redevable de ses parents?
Ah, c'est intéressant. Je suis indestructible, c'est ça que je lui dois à ma mère. Je suis indestructible, j'ai peur de rien, je peux avancer dans la vie, je peux y arriver. Même si c'est dur, je peux y arriver. Bats-toi, laisse pas tomber.
C'est ce qu'elle vous disait?
C'est ce qu'elle m'a montré. C'est plus fort que si elle m'avait dit ça.
Parce que vous l'avez vu.
Oui, ma mère, 4 garçons, orpheline, assez tôt de père, 1m50. Pour vous donner une idée, elle chaussait du 33, ma mère. Mais c'était une machine de guerre. Elle était indestructible.
4 garçons, mère au foyer, pendant longtemps, les femmes s'occupaient des enfants, de la maison. Est-ce que vous vous êtes déjà dit que d'être mère au foyer, c'était parfois un boulot à plein temps?
Ben bien sûr, parce que je l'ai vu. J'ai vu sa souffrance, j'ai vu sa fatigue. Et j'ai vu comment elle se battait. Moi, presque une fois par semaine, j'allais au cinéma avec ma mère en tête à tête. Elle en avait 3 autres derrière. C'était juste de l'amour. Au fond, elle m'a donné confiance en moi. Il n'y a rien. C'est extrêmement important. Mon père, lui, il était tellement absent. Il passait de temps en temps à midi, il piquait un peu dans chaque assiette de ses fils et puis il partait.
Ça vous a manqué, ça?
Mais il était là quand même.
De toute façon, vous vous faisiez remarquer justement pour attirer son attention. Vous vous rendiez
Absolument.
Même malade pour que lui vienne s'occuper.
Je pense que tous les acteurs jouent pour le regard de quelqu'un. Tous.
Et vous, c'est pour le regard de vos parents et de votre père en l'occurrence?
Oui, parce que le regard de ma mère, je l'avais. Je savais que je l'avais. Vous savez, quand j'ai commencé à jouer seul et à avoir du succès, ma mère, elle était presque là tous les soirs. Elle avait sa place. Le premier qui touchait à la place de ma mère, il en prenait une.
Et vous étiez le meilleur à ses yeux? Ou alors, de temps en temps, elle vous disait, oh non, là, c'est...
J'ai toujours été le meilleur à ses yeux. On est les 4 à être les meilleurs à ses yeux. Il n'y a pas de match.
Ouais, bah, elle manque peut-être d'objectivité, non, parfois?
Pas du tout. On était les meilleurs.
Michel Boujna, Janine, votre maman, je vous propose de l'écouter, votre maman, tout de suite.
Mais Michel a toujours été un enfant très triste et secret, très solitaire. Il a été très, très jaloux à la naissance de Paul. Il en a beaucoup souffert, jaloux, mais pas d'une façon méchante. Hein. Il se faisait souffrir lui, mais pas les autres.
Vous êtes gonflé quand même.
Pourquoi?
Parce que c'est la première fois que j'entends ma mère depuis qu'elle est partie.
Je suis désolée.
Non, c'est pas grave, vous le savez pas. Ça fait. Bon, vous savez, les gens qui meurent, ils ne meurent vraiment que quand on les oublie. Hein. Ils vont dans un endroit où on peut pas y aller, mais ils sont pas morts. Donc voilà, elle était. Vous voyez, elle me connaît bien. Elle sait bien que aujourd'hui, je suis grand. Je peux habiller ma timidité et ma solitude, je peux l'habiller de plein d'artifices qui fait que vous voyez rien du tout.
Vous dites qu'elle vous a rendu indestructible. Finalement, on n'est jamais indestructible par rapport à la perte d'un être cher, notamment.
Évidemment. Mais elle m'a donné quelque chose que je crois être indispensable, que j'essaye de toutes mes forces de donner à mes enfants. Cette espèce de truc qui fait que même si on rate, il faut qu'on recommence. Qu'à un moment donné, ça va fonctionner. Je ne sais pas comment expliquer. Parce que moi, je l'ai vu avec 4 garçons vraiment insupportables. Un mari magnifique, mais qui travaillait beaucoup, qui était joueur. Elle s'est battue, quoi. Mais je lui dois. Vous voyez, il y a des gens qui disent « Ah, j'ai fait ça pour ma mère ». Non, je ne fais pas ça pour ma mère, je fais ça pour moi. Et ma mère m'a toujours dit, elle m'a dit « Tu le fais pour toi. Fais-le pour toi, pas pour moi, ni pour ton père, ni pour tes frères. Tu le fais pour toi. » Vous savez, quand il ne reste plus rien, il reste votre mère. Quand il ne reste plus rien, il reste vos frères. Quand il ne reste plus rien, même si on ne s'entend pas avec eux forcément, c'est terrible à dire, mais le lien, il est très très fort. Pourtant, on pourrait penser qu'on ne les choisit pas.
Bah, c'est vrai.
On choisit les autres. On choisit nos amis, on choisit nos amours, on choisit... Et encore que, parfois on est choisi, mais au fond, ma mère, c'est ma mère. Vous savez que ma mère, quand je me levais la nuit pour aller faire pipi, quand je revenais, mon lit, il était fait. C'est pas vrai, mais ça me plaît.
Michèle Boujna, votre maman, quand on l'a écoutée il y a un instant, évoque la tristesse. « Regarde-moi ces grands yeux bleus tristes », c'est ce qu'on vous disait enfant. Cette tristesse, vous n'avez jamais réussi à l'expliquer réellement. Vous avez choisi l'humour, le rire, pour masquer justement cette tristesse. C'est André Gide qui disait « Conquérir sa joie vaut mieux que de s'abandonner à sa tristesse ». Pour vous, la tristesse, elle doit être enfouie, elle doit être cachée, elle doit être gardée pour soi. Faut pas la montrer.
Non, ça vous concerne pas. Ça concerne personne d'autre que moi. C'est d'une complaisance extrême. Vous
pourquoi
savez comment je me débrouille pour l'exprimer?
C'est une faiblesse, c'est une fragilité qui.
Non,
faut
c'est pas
montrer.
Une question de faiblesse, c'est une question de pudeur. Je me mets pas tout nu devant tout le monde.
Si vous l'avez fait cul nu autour de la Concorde il y a quelques années à la sortie d'un de vos films.
Oui, mais ça c'était un pari. Par contre, un pari, c'est un pari. Vous savez comment je fais pour exprimer ma tristesse ou ma mélancolie? Je regarde des films ridicules pour enfants. Vous voyez, où le chien est genre, il est abandonné. Et il cherche son maître et il traverse la terre entière. Et là, moi, je pleure.
C'est vrai?
Oui.
Mais il faut être tout seul.
Ah oui? Ah non, jamais.
Même devant vos enfants ou...
Ah oui, une fois ou deux devant mes enfants. Il y a un film qu'on adore avec mes enfants. C'est un film sur l'histoire d'un chien japonais. Comment il s'appelle, le très beau garçon qui joue dans Pretty Woman?
Richard Gere,
merci. Il prend son train le matin pour aller bosser, comme beaucoup aux États-Unis. Et il a une crise cardiaque, il meurt. Et le chien, il a l'habitude de l'attendre à la gare.
Oh, c'est super. C'est pas un dessin animé,
Hatch,
c'est un film.
S'appelle. Oui, c'est un film. Hatch, je crois que ça s'appelle. Oh, bah... Et ce chien, tous les jours, il va attendre
c'est
le train.
C'est une histoire vraie.
Il y a une statue du chien là-bas.
C'est déchirant.
Ouais, voilà. Et ben, moi, je pleure beaucoup dans ces histoires.
Michèle Boujna, vous, en tant que papa, vous réconfortez comment vos enfants?
Je les prends très fort dans mes bras. D'ailleurs, je les prends très fort dans mes bras, même quand ils pleurent pas. Ce qui les énerve énormément. Et la dernière fois, j'ai dit à ma fille, bon, pleure un peu que je te prenne dans mes bras. Elle s'est foutue de moi. Il y a beaucoup, beaucoup de pudeur. Mais c'est à cause de moi.
C'est pas de la pudeur que de prendre ses enfants dans ses bras.
Alors non, là, de leur part à eux.
Ah oui.
Ils veulent pas. Parce que je suis tellement expansif, ça les énerve. Papa, arrête. Voilà, c'est... Papa, ouais, d'accord, bon, d'accord. Arrête, je t'en prie, papa, arrête.
Michèle Boujna, on enchaîne.
Oui, madame.
Michèle Boujna, vous quittez la Tunisie avec vos parents. Vous avez à peine 11 ans quand vous débarquez en France, en région parisienne, dans la cité de la Croix d'Arcueil à Bagneux. Téléportation, on part en 1964. Nous sommes dans la cour du collège. On vous traite de sale juif, de sale arabe. Comment vous répondez à ces insultes?
Je me bats. C'est la seule fois dans ma vie où je me suis battu. Je me bats et ça se termine très mal. Je me bats avec mes ongles, mes pieds, mes mains. Je deviens très violent parce que je supporte pas qu'on me traite de sale arabe, je supporte pas qu'on me traite de sale juif, je supporte pas tout ça. Et je supporte pas cette école. La première école où je suis arrivé, je supporte pas. J'adorais les maths quand j'étais petit. Mais il y a un truc que je comprenais pas, il m'expliquait pas, le prof. Je me suis levé en se disant, de là d'où je viens, quand je comprenais pas, on m'expliquait. Et je tombais en larmes. Non, j'ai énormément souffert dans cette école.
Mais pourquoi? Parce que vous vous sentiez à part? Parce que vous veniez
parce
d'arriver
que,
de
parce
Tunisie
que, parce que je suis tombé
coup...
dans une école d'abrutis, c'est tout.
Mais c'est quoi une école d'abrutis?
Eh bien, ils s'en foutaient des enfants. Il n'y a qu'eux qui comptaient.
Est-ce que c'était pas l'école de l'époque ?
Non, parce que la première année, je suis en sixième. Vraiment, c'est une catastrophe. La deuxième école, on me change d'école, évidemment. Et la deuxième école où je vais, c'est génial. En plus, j'avais un prof de maths qui s'appelait Boudjena. Vous vous rendez compte ? Le mec, il s'appelle Boudjena. Presque comme moi.
Le plus beau nom au monde.
Bah oui. J'étais premier en maths.
Michel Boujna, dans votre spectacle Les Magnifiques, vous racontez avec humour la difficulté de s'intégrer. Il y a l'accent, un trouble d'élocution aussi quand vous êtes plus jeune.
Oui.
Vous parlez comme ça ?
Comme ça. Dans les dents, là, vous avez encore la place pour le faire.
Quand on a ce genre de problème, ce genre de difficulté, quand on est enfant, comment on le vit ça
mal,
aussi ?
Mal, très mal.
Parce qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui, mais on en parlait peut-être moins à
non,
ce moment-là.
Non, on ne parlait pas de tous ces problèmes. Moi, j'ai souffert. Parce qu'ils foutaient de ma gueule. Un jour, il y a un prof qui m'a fait « Bon alors, Bouzna, tu vas dire qui sont ces serpents qui s'essaient sur nos têtes ?» J'ai dit « Monsieur, si, allez. Si, vas-y, dis-le, Boujena. C'est ça. » Et puis, comme ça, parce qu'en plus, j'avais cet accent comme ça, alors ça va. C'était pas évident. Mais bizarrement, des années et des années après, je me suis rendu compte que ça pouvait être une force.
Qu'est-ce que vous diriez justement à ces enfants qui sont en difficulté, qui sont confrontés à ce genre de trouble-là, pour leur dire en gros, t'inquiète en fait, ça va aller ?
Quand j'ai eu 20 ans, il y a un prof qui est venu me voir un jour pour me demander de travailler avec des enfants. Des enfants qui étaient en classe d'adaptation, à la limite de l'hôpital de jour. Je me suis retrouvé en face d'enfants qui n'avaient que ce genre de problème, multiplié par 10 pour certains. Fais de tes faiblesses des forces. Par exemple, j'avais deux groupes et je les gardais 2 ans. Il y en a un qui a sauvé 2 des groupes et même plus que ça. Pourquoi ? Parce qu'il a essayé de se suicider avec le revolver de son père très intelligent, qui avait laissé un revolver chargé sur le bureau. Il s'est tiré une balle dans le cœur et s'est passé 1 mm. Ça veut dire que c'est pas un suicide raté. Quand on est allé voir à l'hôpital, ce gosse, il a dit la chose la plus belle que j'ai entendue dans ma vie. Il avait un grand sourire. On lui a dit « Pourquoi tu souris ? T'as failli mourir. » Il dit « Parce que maintenant, je sais que ma vie m'appartient parce que je suis capable de la supprimer. » Et cette phrase-là, on l'a redite tous ensemble. Et cette phrase-là, elle a changé beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que malgré tout, on est quand même propriétaire de sa vie. Et donc, on est aussi propriétaire de ce qu'on est capable de faire et de construire à partir même de ses faiblesses. Un enfant qui souffre vraiment, il atteint une maturité beaucoup plus vite que les autres. Faire de ses faiblesses des forces, c'est la clé. Moi, j'ai fait que des bides.
Que des bides ?
Au début, on a fait que des bides. C'est le jour où j'ai pris mon accent, qu'on m'avait rejeté, que j'ai pris tout mon handicap, en gros, que j'ai commencé à avoir du succès. C'est fou, hein ?
On va partir maintenant en 1984.
Bonsoir, mon fils ! Christian ! T'es l'air embêté, mon fils ! T'es embêté voir ton père, c'est ça ? Hein ? Non, papa. Bonjour, papa.
Nous sommes au Splendide Saint-Martin à Paris pour votre spectacle Les Magnifiques. Vous incarnez 3 juifs tunisiens immigrés en France. Ils évoquent leurs rêves, leurs blessures, leur exil. Ce spectacle, vous l'avez rejoué en 2004 et en 2021, cette fois pour leur dire adieu. C'est un spectacle qui est drôle, évidemment, mais qui est aussi plein de tendresse. On sent une extrême sensibilité en vous, une hypersensibilité. Même, est-ce que je me trompe ?
Bah non.
Vous êtes un tendre.
Oui.
Est-ce que je peux dire que vous êtes un homme hypersensible ?
Oui, vous pouvez.
C'est un poids, cette hypersensibilité ?
Oh oui, j'aimerais être dur.
Non, mais vous dites ça d'un air un peu détaché, tout ça, mais c'est vrai ou pas ?
Oui, je suis comme ça, c'est vrai. Dans un spectacle, j'ai écrit, le gosse, il dit « Pépé, tu m'as dit que si tu faisais rire une femme, tu gagnais 50%. Tu m'as jamais expliqué les 50% qui restent. Alors elle rigole avec moi et elle part avec les cons. » Ben c'est vrai, vous partez toujours avec les cons. Je ne sais pas ce que vous faites, vous, les femmes.
Mais les gars,
pourquoi vous allez toujours avec les connards ? Pas toutes. Vous allez me dire, moi, pas moi. Mais on n'a qu'à faire des statistiques. J'en vois tellement des femmes. Elles ne sont pas bêtes. Elles sont intelligentes. Et elles vont avec un connard. Et attendez, il y a pire. Il y en a qui vont avec un connard qui les frappe. Il y a combien de femmes qui meurent sous le coup des hommes ? C'est un truc qui me dépasse. Je peux comprendre les problèmes de dépendance, machin, tout ce qu'on veut. Mais ça me révolte, ça me fait mal. C'est pas honteux pour quelqu'un d'être avec quelqu'un de gentil, vous savez ? C'est vachement bien.
Vous trouvez que la
gentillesse... Ça peut être super d'être avec quelqu'un de gentil. Gentil.
Vous trouvez que la gentillesse, pour un homme, elle est dévalorisée ?
Bien sûr, depuis toujours. Le gentil,
c'est-à-dire qu'un gentil, un gentil gars, c'est un...
Ouais, il est un peu con. Et on ne va pas récompenser un gentil, jamais. On ne va pas récompenser un clown, pratiquement rarement, jamais. Vous avez vu le Festival de Cannes cette année ? Mon Dieu, j'ai rien contre les gens qui font pleurer, mais acceptez, bande d'abrutis, de reconnaître la vertu magnifique de la tendresse et du rire. C'est tellement bien la vie.
Vous regrettez parfois d'être gentil ?
Mais oui, parfois c'est pas... Et alors le problème, avec les gentils,
ouais.
Le problème c'est que quand on s'énerve, comme on n'a pas l'habitude, on fait n'importe quoi. Et on fait mal aux gens qui nous aiment et qu'on aime.
Et après, est-ce qu'on va s'excuser parce qu'on est sympa, justement ?
Ça donne... Bon, excuse-moi, je suis énervé parce que je m'énerve jamais. Bon, excuse-moi, j'étais trop loin. Mais quand même, t'as déconné.
Et ça repart.
Ouais.
Ici, dans le rétro.
Il y a donc le spectacle Les Magnifiques. Il y aura d'autres one-man shows. Il y en a un qui s'appelle Enfin Libre, entre 2008 et 2013.
Je suis libre ! Fais ce que je veux !
C'est quoi le glic-glic-glic-glic-glic-glic ?
Je sais même plus.
D'accord.
Je regarde tellement pas en arrière que j'oublie ce que j'ai fait.
Et l'émission s'appelle Dans le rétro et donc on regarde en arrière.
Oui, c'est ça le problème.
Mais il vaut mieux regarder en arrière que dans le pare-brise.
Oui, ça c'est sûr.
Bon. À l'époque, vous avez 55 ans. Il faut avoir plus de 50 ans pour se sentir libre. La liberté, c'est une question d'âge ?
Peut-être. On apprend à se détacher petit à petit. Il y a quelqu'un qui disait qu'à partir de 40 ans, on est responsable de sa gueule. Vous savez, parce que souvent on dit oui, mais tu comprends, il a eu un père qui l'a frappé, une mère qui était dure, machin, tout ça, il faut l'excuser. Non, à un moment donné, il faut dire à quelqu'un qui a beaucoup souffert, non, maintenant toi tu te prends en charge, tes parents sont pas responsables de toutes tes blessures, tu peux y arriver, c'est de ta vie qu'il s'agit. Ne pas être victime de ce qu'on pense être le plus fort chez nous, c'est-à-dire notre éducation, notre famille, machin. Non. On peut s'en sortir. C'est dur.
Mais
hein.
Si, ouais, c'est super dur parce que si quelqu'un vous dit ça alors que vous souffrez profondément ou que vous avez eu une vie difficile, ça peut paraître être un manque d'empathie vis-à-vis de l'autre. De dire, mais vas-y, en fait,
Au contraire. Je dis ça parce que je t'aime. Ouais. Je dis ça parce que je veux que tu te libères. Je veux ça parce que je veux que tu grandisses. Et si tu grandis, tu vas être encore plus heureux. Donc, ce que je veux, c'est pas rentrer dans ton jeu ou dans ta souffrance. Je veux rentrer dans ta force.
Mais ça, c'est plus facile de le dire quand face à soi, on a quelqu'un qui a morflé que quelqu'un qui a eu une belle vie et qui va dire non, mais vas-y, bats-toi, alors que la personne n'a pas eu de galère.
Mais les gens qui se sont jamais battus, ils disent pas ça.
Ouais.
Ça existe pas. Et puis, il y a d'autres choses aussi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir de contact avec la souffrance parce que ça les fait trop souffrir. Donc, ils la fuient. Ils ne vont que chez des gens en apparence qui ont du positif. Mais c'est faux parce que derrière chaque plus, il y a un moins. Toujours.
Michel Boujna, c'est du théâtre aussi. L'Avare, inconnu à cette adresse. Il y a le cinéma. S'il y a bien un film dont il faut parler dans votre carrière, celui dont tout le monde vous parle, c'est celui-ci.
Ta première visite en 25 ans, c'est pas pour prendre de mes nouvelles, je suppose. T'as reçu ma lettre. Et tu t'inquiètes.
Ah, attends, mais qu'est-ce que je deviens si c'est vrai, moi ?
Papa.
Bah, c'est un film dont tout le monde vous parle. C'est vraiment le film qui a marqué votre carrière, non ?
Je sais pas ce que c'est.
Une femme très, très amoureuse.
Ah,
non, mais je fais exprès,
oh là
ça
là.
A pas bien marché.
Ah,
non,
ah.
Mais je fais exprès.
Ah oui, alors
ça va très,
dans ces
très
cas-là,
bien
vous auriez pu me sortir. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes ?
Quoi ?
Oui, c'est un film que j'ai fait aussi.
C'est quoi ce titre ?
C'est mon premier film. C'est le titre le plus long de l'histoire du cinéma.
Mais je l'ai déjà oublié d'ailleurs.
Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes ?
Vous auriez mieux fait de réaliser Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?
Absolument. Mais celui-là, je ne l'avais pas réalisé, grâce à Dieu.
Bon, le film Michel Boujna auquel on pense et qui vous a valu le prix du meilleur acteur dans un second rôle, c'est Trois hommes et un couffin.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Ben, tu vois, c'est un couffin avec un bébé dedans et une lettre dessus.
Mais qu'est-ce qu'on va en faire ?
L'enfant à quel âge ?
Ben, c'est un bébé. Un petit bébé.
Trois hommes et un couffin au cinéma. D'ailleurs, en ce moment, en version restaurée 4K. J'ai une question un peu délicate.
J'embrasse Roland Giraud très fort. C'est lui le meilleur de nous tous dans ce film.
Alors, j'ai une question un peu délicate, Michel Boujna. Il paraît que vous portiez des couches sur le tournage.
Oui. Ah, juste avant, j'ai fait un film qui s'appelait Voyage à Paimpol. Et je prends un coup de crosse de fusil dans les parties. Comme on dirait dans un roman.
C'est quoi les parties ?
Alors.
Je vois pas.
Un homme est constitué,
vous
si vous voulez,
ouais.
À la différence d'une femme.
Ouais.
Il a deux espèces de trucs.
Je vois pas du tout.
Alors, j'ai pris un coup de fusil dans les couilles. Est-ce que c'est plus clair?
J'ai compris.
Voilà. Et sur le moment, j'ai eu très, 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 très mal et c'est passé. Et dans la nuit, tout d'un coup, j'ai eu une douleur terrible. On m'a emmené d'urgence à l'hôpital. On m'a opéré. Heureusement, ça n'a pas eu de conséquences sur ma vie à la fois sexuelle et de géniteur.
Mais maintenant, vous parlez un petit peu comme ça.
Oui, ça m'arrive. Et j'ai commencé le tournage du coup fin, où entre chaque prise, j'étais allongé sur une civière avec des médecins. Et j'avais effectivement des couches et des calmants et tout ça. Et c'est ça qui me donne cette démarche en canard dans le film, si vous regardez bien. Donc, on peut dire que j'ai eu un César grâce à un coup dans mes couilles.
Voilà, voilà, voilà. Michel Boujna, ce film « Trois hommes et un couffin », il explore la paternité. Vous, vous êtes devenu papa en 1998.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot.
On chante une berceuse pour rendormir un enfant quand il pleure, par exemple. Vous, il était de toute façon hors de question de laisser votre enfant pleurer. Pour vous, laisser votre enfant pleurer, c'est insupportable.
Je peux pas. Le pédiatre, il m'a dit, essayez de comprendre. Un bébé, ça parle pas. Donc quand il crie, quand il pleure, c'est sa manière à lui de s'exprimer. C'est pas du tout qu'il est malheureux. C'est un langage. Et ben, je m'en fous. Il pleure, je ne supporte pas, je le prends dans mes bras, je l'emmène dans la voiture, je fais 23 km, il s'endort, je reviens à la maison, il dort toujours, je le prends, je pose délicatement dans son lit, je fais 2 mètres, il pleure, je recommence.
Ah mais vous supportiez pas les
pleurs? Je le lâche pas, et j'ai pas fait des handicapés, hein. Ils dorment dans leur chambre aujourd'hui.
Oui, parce que ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut... Alors, ça dépend, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent, non, quand un bébé pleure, c'est qu'il y a une raison, il faut s'en occuper, aller le réconforter. Et puis, il y a une autre école qui dit, non, mais si votre enfant pleure, laissez-le pleurer.
Oui, c'est ça, mais on a essayé. Hein. Avec leur mère, on a essayé. On avait mis les baby contrôles, là. Vous imaginez pas, je marchais de long large, j'allais casser les murs. Non, moi, l'erreur qu'on a fait, nous, je trouve, hein, c'est qu'ils ont 22 mois d'écart. On aurait dû les faire dormir dans la même chambre. Quand ils étaient bébés.
Pourquoi ?
Parce que je pense qu'ils auraient été mieux avec un chien. Et peut-être aussi un lion. Vous voyez, qui se sentent entourés.
Là, vous auriez eu la paix.
Un ours, un dauphin. Vous voyez, un truc comme ça. En fait, on aurait dû habiter dans un zoo.
C'est vous qui m'avez demandé en début d'émission ce que j'avais fumé quand même. Hein.
Oui, je sais.
Oui, oui. Voilà.
Ici, dans le rétro, Déborah Grunewald.
Michel Boujna, humoriste, acteur, réalisateur, il y a eu Père et Fils en 2003, Trois Amis en 2007 et en 2016.
En juin, je passe le concours au Conservatoire National Supérieur. Mon rêve y entrer.
Il y a combien de musiciens qui réussissent? Et aveugles en plus?
Ce film, c'est le cœur en braille. À l'époque où ce projet a émergé, vous étiez à deux doigts d'arrêter le cinéma. Pourquoi?
Il y avait un projet que j'aimais beaucoup, sur lequel j'ai énormément travaillé. On est rentré en préparation, ça a capoté. Et puis après, je me suis dit, au fond, peut-être c'est un signe du bon Dieu. Bon, allez, il ne faut pas le faire. Et puis, un copain m'a passé ce roman sur l'histoire de cette petite fille. Encore une fois, un handicap. Vous voyez, je suis poursuivi par ça. Enfin, je suis poursuivi, ou je le cherche. D'une petite fille qui ne veut pas qu'on découvre qu'elle est aveugle et qui veut devenir une grande musicienne. Et ça m'avait beaucoup touché. Le film, bizarrement, il n'a pas marché du tout en France. On a eu des prix dans le monde entier. Mais en France, il est passé à l'as, mais complètement. On trouve toujours des explications dans l'échec, jamais dans le succès. Hein. Mmh. Après Le cœur en braille, j'ai dit à tout le monde, écoutez, foutez-moi la paix, je ne suis pas un homme de cinéma, il n'est pas question que je fasse des films.
Mais donc vous étiez prêt à lâcher, alors que justement vous dites, il ne faut jamais rien lâcher, il faut continuer, il ne faut
oui,
rien lâcher.
Sauf
là,
que,
vous étiez prêt à lâcher quand même.
Oui, sauf que la question c'était, est-ce que j'avais vraiment envie de faire ça? Est-ce que c'est si important pour moi de faire des films? Je ne pense pas que c'est si important pour moi de faire des films. Je pense sincèrement que, par contre, Père et Fils, oui, c'était important de le faire. Les deux films qui ont suivi, je peux me poser la question très sincèrement. Et le prochain film que je vais faire, oui, il est indispensable pour moi de le faire. Je ne pourrai pas vivre si je ne fais pas mon prochain film, parce que c'est l'adaptation des Magnifiques au cinéma et que je veux enfin me libérer de ces personnages, de cette histoire qui me poursuit depuis
Pourquoi
tant d'années.
Pourquoi se libérer?
Parce qu'il y a une phrase dans le spectacle qui est terrible. Le personnage dit... Tant qu'il y aura des auteurs pour nous écrire et des acteurs pour nous jouer, on sera éternel. Ça veut dire qu'il faut que je les joue. Sinon, ils meurent. Or, parce que pour moi, ils sont vivants. Molière, il a la chance, lui, qu'il est mort, mais quand même, il est très vivant parce que tout le monde le joue. Moi, personne. Si moi, je ne le fais pas, personne ne va le faire.
Mais alors, donc, ça veut dire qu'ils vont mourir après le film?
Non, justement, c'est du cinéma. Ils vont rester. C'est comme les livres, c'est comme les tableaux. D'accord. Ça reste. Ça et ils resteront. Si je réussis le film, ils resteront mes trois héros. Et comme ça, je pourrais, moi, aller voguer vers d'autres cieux et me dire, bon, ça, c'est fait. Bon, j'aurais mis un peu de temps pour le faire, mais ça, c'est fait.
Michel Boujna, il y a l'humour aussi qui a été salvateur. Pour vous, vous dites qu'une société qui ne rit pas, elle meurt.
Ben oui. Vous connaissez beaucoup d'humoristes nord-coréens, vous ? Non. Vous connaissez beaucoup d'humoristes iraniens en Iran en ce moment ? Non. Je connais beaucoup de femmes qui souffrent.
Qu'en France, on rit encore ?
Ah ben oui. On rit pas toujours bien, mais on rit.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous faisaient rire, Michel Boujna, à l'époque et qui ne vous font plus rire aujourd'hui ?
Non.
Parce que la société évolue, les codes évoluent aussi, et donc les codes de l'humour évoluent aussi.
Il y a une chose, le rapport à certaines choses a changé. Par exemple, si on raconte une histoire très 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 misogyne, il y a 40 ans, on rigolait sans se poser trop la question de savoir. Voilà, c'était genre. Sauf qu'entre-temps, on s'est mis, grâce aux femmes, à comprendre que c'était un rire d'une cruauté absolue. Aujourd'hui, quand on raconte une histoire très machiste et très machin, très sincèrement, et je sais le cas d'énormément de gens, je ris quand même. J'ai honte, mais je ris quand même. Je suis conscient que ça véhicule un comportement qui est détestable, mais je ris quand même. Donc pour moi, une histoire misogyne aujourd'hui, elle rappelle à quel point la misogynie, c'est terrible. Et donc, j'ai un rire un peu horrifié. Mais c'est, hélas, l'humour, c'est la trace de tous les désespoirs, y compris du désespoir que génère la misogynie.
Mais si aujourd'hui vous riez à une blague misogyne, vous allez passer pour un salaud.
Mais c'est une chose que je ne fais pas en public, c'est une chose à la maison et on en parle. Ouais. Je dis putain, c'est horrible ce que tu viens de raconter. Arrêtons de penser qu'on est parfait, quoi. Arrêtons de penser que genre on est la morale va tout dominer. Non, c'est pas vrai. Les mecs ils sont cons. Je fais partie des mecs. Je suis con aussi et je suis capable d'être con. La différence c'est que j'en suis conscient et que je ne vais pas plus loin évidemment. Et il y a des femmes qui sont, je les adore. Parce que vous vous rendez compte le nombre de blagues misogynes qu'elles ont dû avaler ? Et elles ont rigolé quand même. Or, c'est vraiment la preuve de leur oppression. Moi, il y a une histoire qui m'a horrifié qu'on m'a racontée. D'ailleurs, quand j'ai raconté cette histoire une fois à des copains, j'ai fait exprès, je l'ai inversée. L'héroïne, c'était la femme. Mais là, la vraie, regardez comme cette histoire est violente. C'est l'histoire d'un mec qui rentre avec une vache dans sa chambre à coucher. Il y a sa femme qui est dans le lit. Et il dit, tu te rends compte que je suis obligé de coucher avec cette chèvre? Et la femme lui dit, mais c'est pas une chèvre, c'est une vache. Il fait, mais c'est pas à toi que je parle.
Ça, c'était des blagues extrêmement répandues à une époque quand même.
Elle est d'une violence extrême. Alors que quand je l'inverse, je fais rentrer une femme avec une chèvre dans la chambre et qu'elle dit, tu te rends compte que je suis obligé de coucher avec ce singe? Tu te rends compte? Mais enfin, chérie, c'est pas un singe, c'est une chèvre. Mais c'est pas à toi que je parle.
Et qu'est-ce qui explique justement cette différence de réaction que vous avez ?
Vous vous battez. Moi, j'ai vécu le MLF. Hein. Vous, votre combat à vous, les femmes, vous nous ouvrez les yeux, vous nous apprenez. Moi, je ne vais pas faire celui qui était conscient. Non, je reste un Méditerranéen, hein, d'accord ? Je peux être tout à fait con comme un Méditerranéen. Je vous dis, la différence, c'est qu'à un moment donné, on peut être au courant qu'on est con. Dès qu'on est un peu conscient qu'on est con, on est toujours con. Hein. Mais au moins, on le sait. Et quand une femme nous dit, espèce d'abruti, mais qu'est-ce que t'es con ? On a une espèce de sourire un peu en coin, gêné, comme un gosse qui vient de faire une connerie, et on dit, t'as raison. Je m'excuse, je suis con. Et après, en cachette, on rigole quand même. Mais on progresse. On va pas appuyer sur un bouton. Mais c'est vous. C'est vous. Vous êtes le cœur de l'humanité. C'est pas hypocrite de ma part. Mais par exemple, prenez les femmes en Iran. Mais sans vous, le monde ne serait pas au courant de cette souffrance. Vous, les femmes, vous faites ça.
Est-ce que ce n'est pas important aussi d'entendre les hommes, justement ? Il ne faut pas qu'il y ait que les femmes
non,
qui mènent ce combat.
Non, évidemment pas. Et bien sûr. Mais bizarrement, qui en Iran aujourd'hui se bat ouvertement contre le régime ? Vous avez vu cette femme qui s'est déshabillée dans la rue ? Elle est vraisemblablement ou torturée ou morte aujourd'hui. Bien sûr qu'il n'y a pas... Heureusement, bien sûr qu'il y a des hommes qui se battent avec les femmes et bien sûr que c'est un combat collectif. Vous savez, je vous dis, quand je dis au public, mais il y a combien de femmes qui meurent sous les coups des hommes chaque année ? Combien ? Et on parle que de celles qui meurent. Et celles qui sont battues, qui meurent pas et qui disent rien. Il y en a combien ?
Mais c'est important d'entendre des hommes en parler aussi, en fait.
Mais
comme
très...
on le fait là, en fait.
Mais c'est très important. Comme c'est important d'entendre un non-juif parler d'antisémitisme. Comme c'est important d'entendre un non-musulman parler de tout ça avec autant de force, comme c'est important d'entendre un musulman parler du vrai islam, celui qui est fraternel, celui qu'on partage, celui où on s'aime. Les consciences, elles peuvent s'éveiller et il y a des gens formidables partout. C'est, rien n'est simple, mais c'est pas parce que c'est pas simple qu'il faut se fermer sa gueule.
Michel Boujna, on termine notre voyage avec un extrait musical. Kalsoum, l'astre de l'Orient, et je voudrais citer quelqu'un de brillant, de beau,
enfin,
d'intelligent, de drôle, un homme d'esprit.
Oh, enfin.
C'est avec les utopies qu'on construit l'avenir et avec les rêves qu'on avance. Cet homme exceptionnel, hors du commun, un dieu vivant, c'est vous, Michel Boujna.
Ah, c'est moi qui dis ça?
Ouais.
Eh ben, dites donc.
Quel est le rêve aujourd'hui grâce auquel vous avancez, vous?
Le bonheur de mes enfants. Ma fille qui va faire sa première expo, mon fils qui a écrit le scénario d'un court-métrage que je trouve sublime, mais de toute façon, tout ce qu'ont fait mes enfants, c'est sublime. Évidemment, j'ai aucun problème avec ça, hein, vous savez. Et aucun problème. Moi, je rappelle ma mère un jour, elle rentre dans ma loge il y a très longtemps, et elle tombe sur un journal qui s'appelle Minute, je sais pas si ça existe encore, qui était un journal très très antisémite, d'extrême droite absolue, à l'époque où vraiment, c'était presque folklorique leur truc. Et il y avait une critique d'un de mes spectacles dedans qui était dithyrambique. Elle prend le journal, elle regarde la critique, elle me regarde, elle me fait « T'es sûr qu'ils sont antisémites ?» Mais bien sûr, je suis de mauvaise foi absolue. Je ne sais plus que c'était quoi la question, mais elle était bien.
Quel est le rêve aujourd'hui grâce auquel vous avancez?
Tout ça, et, ouais, puis, ouais. Et puis l'idée qu'il va y avoir la paix, et qu'il faut parler de ça, c'était difficile, très difficile pour moi. J'ai craqué un jour, sans me rendre compte un peu de ce que je disais parfois, vous savez. Mais la paix. La paix, elle est beaucoup plus productive que la guerre, hélas. Ils ne s'en rendent pas compte. Voilà, et qu'on s'occupe du climat. Moi, ça m'inquiète beaucoup, le climat.
Est-ce que vous avez quelque chose d'un peu plus joyeux pour terminer cette émission?
Oui, j'ai passé un moment formidable avec une orange.
Oui.
Essayez de la retrouver.
Référence à mon joli pull, c'est ça?
Exactement, oui, elle est formidable.
Parce qu'on fait de la radio, donc je vais quand même...
C'est que je ne suis pas du tout... je suis terriblement lucide, mais je ne suis pas pessimiste. Je crois et je veux croire qu'on va s'en sortir. Et on va s'en sortir parce qu'on va beaucoup rire.
Merci Michel Boujna.
Merci Madame Lorange.
Le festival de Ramatuelle, c'est du 29 juillet au 12 août, avec les nuits classiques pour le coup d'envoi, des concerts, des spectacles, de la musique, du rire. Le programme sur festival-ramatuelle.com. Merci à tous d'avoir fait ce voyage avec nous. Celui-ci et tous les autres, vous les retrouvez sur l'application Radio France ou sur toutes les plateformes. Passez un super bon week-end. Prenez soin de vous. Salut.